Oyez, oyez, les gambergeurs, comme vous êtes très nombreux à m'écrire après chaque épisode pour me partager votre propre gamberge, j'ai créé un groupe Facebook afin de vous connecter les uns aux autres. Ce groupe s'appelle Gambergeland, c'est un groupe privé. Pour en être, il suffira de répondre à une petite question et de vous engager à n'y insulter personne. J'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions. Au plaisir de vous y retrouver.
Alors c'est ça qui crée aussi la dépendance affective après dans les autres relations, etc. C'est qu'on est toujours en train d'essayer de se sentir aimé en fait. Et le parent toxique, attention, ça va piquer pour celles et ceux qui écoutent, ne sait pas aimer son enfant.
Bonjour à tous et bienvenue dans Gamberge, le podcast où l'on aborde tous les aspects de la vie créative avec ceux qui en parlent le mieux. Je m'appelle Christine Béroux, je suis autrice, humoriste et surtout j'adore me poser un milliard de questions. Ici, j'essaye d'apporter un éclairage sur des problématiques que j'ai rencontrées tout au long de ma vie, de ma carrière et dont j'aurais aimé trouver les solutions ou en tout cas des pistes dans un podcast comme celui-ci. Et si mon univers et ma réflexion vous parlent, que vous souhaitez avoir accès aux coulisses du podcast, je vous propose de rejoindre le groupe Gambergeland sur Facebook. Certains ont des difficultés à le trouver, écrivez-moi en DM sur Instagram, je vous transmettrai le lien. Cette semaine, et pour la première fois, je vous propose un podcast en deux parties. Première partie aujourd'hui, deuxième partie dans quelques jours. Tant avec mon invité, nous en avions à nous dire. Cette invitée, c'est Julie Arcoulin, thérapeute, autrice de plusieurs livres, dont « Survivre aux parents toxiques », lequel m'a retourné le cerveau. J'ai eu des parents toxiques et j'ai récemment publié une vidéo qui a cumulé à elle seule, Instagram et TikTok confondus, 2,5 millions de vues avec tout ce que cela impliquait de commentaires, principalement des gens se reconnaissant dans les symptômes d'enfants de parents toxiques que je décrivais, mais aussi d'autres personnes prenant sans les connaître par défaut la défense de mes parents et m'invitant à prendre la responsabilité des travers de ma personnalité. Je ne suis pas surprise, on vit dans une société qui a encore du mal avec la parole des victimes et qui préfère la remettre en question plutôt que de s'en poser des questions. Et comme on le verra avec Julie Arcoulin, il y a trois raisons pour lesquelles une personne ne veut pas croire la victime de parents toxiques ou maltraitants. Alors 1, son enfance à elle a été tellement idyllique, elle aime tellement ses parents que ça lui est inimaginable de se plaindre car elle pense que tout le monde a été aussi chanceux qu'elle. Deuxième raison, la personne a également eu des parents toxiques et ne veut surtout pas reconnaître son statut de victime en octroyant à quelqu'un qui a vécu la même chose ce statut. C'est le fameux « oh oui, moi tu sais, moi aussi j'ai été mal nourrie, frappée, humiliée, que sais-je, et je m'en suis bien sortie ». Troisième et dernière raison pour laquelle quelqu'un ne voudra pas admettre que vous avez été victime de parents toxiques, c'est que tout simplement la personne est un parent toxique. On embrasse Mireille, ceux qui ont participé au débat sous ma vidéo sauront à qui je fais référence. Heureusement, je n'ai pas reçu que des insultes ou des invitations à me remettre en question. On m'a adressé aussi énormément de témoignages, des gens cohabitant avec une immense souffrance dont ils soupçonnent qu'elle provient de la façon dont leurs parents les ont élevés. Beaucoup n'arrivent pas à officialiser par culpabilité et par peur des conséquences dans leur vie. La plus triste des conséquences étant de devoir couper les ponts avec ses parents, ce qui n'est pas facile. C'est le choix que j'ai fait et ce n'est pas une libération, c'est juste la décision du moindre mal. Parfois, il n'y a pas, de façon très simple, une bonne et une mauvaise décision. Il y a juste une mauvaise décision et une autre décision un peu moins mauvaise. Couper les ponts avec ses parents, c'est une décision de survie. Les miens me coûtaient ma santé mentale. J'aurais pu rester parce que selon la bonne morale, on n'a qu'un père et qu'une mère. Mais je ne serais pas là pour vous en parler car mon père et mon estime de moi-même ne pouvaient pas exister en même temps. L'un écrasant l'autre en permanence, je n'aurais jamais eu la force et le courage de créer Gamberge avec tout ce que Gamberge implique de sincérité et de respect de moi-même. Dans cette première partie, on va donc définir le parent toxique et dans la deuxième partie, nous vous donnerons des clés pour vous en prémunir. Juste avant, je voudrais aborder avec vous quelques idées et notions. La plupart des commentaires malveillants s'en prenant à moi, sous ma vidéo des parents toxiques, me disaient de ne pas rejeter la faute sur ma famille et de prendre la responsabilité de ce qui ne me convenait pas dans ma vie. Alors au-delà du fait qu'il est inquiétant que des gens prennent aveuglément parti pour l'accusé et non pour la personne qui se confie, je dirais que prendre ses responsabilités et se plaindre d'un bourreau n'est pas antinomique. C'est d'ailleurs tout le sujet de mon livre « Le jour où j'ai réalisé que la personne toxique c'était moi ». Vous avez le droit de valider la gravité de vos abus tout en reprenant les rênes de votre vie. Ce n'est pas parce que vous dites « j'ai eu des parents maltraitants » que vous vous justifiez de ne pas vous prendre en main ou de ne pas réviser pour un examen ou de ne pas chercher du travail. Être factuellement une victime, c'est-à-dire avoir subi un trauma ou un litige, et se victimiser, c'est-à-dire profiter du statut de victime pour manipuler les gens, sont deux choses complètement différentes. Et d'ailleurs, fun fact, l'époque où moi je me victimisais beaucoup pour attendrir les gens et me trouver des excuses, je n'avais aucune idée à cette époque que j'étais vraiment victime de mes parents, car eux-mêmes minimisaient tout le temps les sévices. Je n'ai jamais été autant victime que depuis que je ne me victimise plus. Je répète, je n'ai jamais été autant victime que depuis que je ne me victimise plus. Je ne dis plus « j'ai été abusée, donc j'ai une bonne excuse pour mal me comporter », ça c'est ce que je faisais avant. Je dis « j'ai été victime et je veux qu'on en parle pour faire avancer les choses », ce qui est différent. La victimisation me faisait aller en arrière. Dire que je suis une victime me fait aller de l'avant. Est-ce que vous comprenez la nuance ? Je veux qu'on se ramène tous sur le terrain de l'humanité, qu'on se dise les choses franchement, factuellement. J'aurais voulu que ma mère admette, par exemple, avoir mis la musique à fond la veille de mon bac et m'explique ce qui l'avait amené à vouloir me faire échouer. J'aurais voulu que mon père comprenne que de hurler de façon arbitraire sur ses enfants pour une portière mal fermée ou un mot mal articulé est traumatisant. Articulé. Lapsus, voilà, personne ne me criera dessus. J'aurais voulu que ma mère m'explique pourquoi il lui est arrivé de cuisiner un bon repas à son petit ami qui était chez nous et pas à ma petite sœur et moi qui devions nous contenter de fruits et de yaourts. J'aurais voulu que mon père conscientise qu'à chaque fois que j'exprimais une souffrance, il se moquait, m'envoyait balader avant de me proposer une somme d'argent ou au choix de me menacer de ne plus m'en donner. La liste est immense, la cerise sur le gâteau étant que quand j'ai dit avoir été agressée sexuellement par un membre de ma famille, tout le monde a fait comme si de rien n'était. Quelques années plus tard, mon père a même suggéré que je me réconcilie avec ce membre de ma famille. C'est mon vécu et jusqu'au bout, jusqu'en janvier 2021 concernant mon père et juillet 2023 concernant ma mère, je ne me serais heurtée qu'à du chantage à l'argent, de la victimisation, des attaques personnelles. Mon père a même menacé de me traîner en justice quand j'étais à la maternité, en sachant très bien que j'y étais, sous prétexte qu'un de mes personnages lui ressemblait dans mon roman. C'est un souvenir horrible. Mon épisiotomie me faisait encore très mal, hein, 13 points de suture, celles qui savent ce que c'est me comprendre. Mon père a été mis au courant de la naissance de ma fille Jeanne. Il m'écrit, je me dis fabuleux, il réalise qu'il doit changer pour apprendre à connaître sa petite fille. Pas du tout, c'était une menace de procès, que je traduis par de la frustration, que j'ai l'audace de fonder une famille sans dépendre de lui, financièrement ou émotionnellement. Non seulement j'ai évolué des années dans un climat perpétuel de violence psychologique qui m'obligeait à marcher avec l'un et l'autre sur des œufs, mais en plus, je vis maintenant dans une société où le problème des parents toxiques est réel mais complètement tabou. Alors très bien, je vais utiliser ma voix pour défricher, mettre des mots, vous dire que vous n'êtes pas seul. Je suis optimiste car je vois qu'aux États-Unis, la parole se libère considérablement, si j'en crois à la qualité des contenus qui circulent sur le web, mais également en librairie. J'ai aussi vu deux films écrits par des survivants de parents toxiques. Le premier, c'est Le Château de Verre, avec Brie Larson et Naomi Watts, entre autres. Il y a aussi Sarah Snook, que les fans de Succession dont je fais partie connaissent mieux sous le nom de Shiv Roy. Et le deuxième film, c'est Une ode américaine, avec Glenn Close et Amy Adams. J'ai reconnu des moments que j'avais vécus, notamment les scènes de chaos total où ça crie, ça hurle, et après lesquelles on fait comme si de rien n'était. Et ça m'a beaucoup aidé de me dire que, déjà, c'était pas de ma faute, et qu'en fait, ma famille avait comme une maladie, comme beaucoup de familles ont une maladie, que ça arrive et qu'on peut se détacher du problème en prenant ses distances et en ne s'identifiant plus à la tribu qui est, je le répète, empoisonnée, perdue, malveillante, malade, sans aucune intention de changer ou de réparer. Pendant longtemps, je n'ai rien dit parce que mon père et le dernier mari de ma mère, dont elle est veuve, étaient plutôt riches. À la fin, chez ma mère, on avait même une piscine et mon père m'a payé une école privée et a participé à l'apport de ma maison. Et donc, je partais du principe que j'étais redevable par mon silence et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. C'est quand j'ai eu ma fille que tout a changé. J'ai réalisé combien il m'était impensable de la brutaliser ou de la rabaisser, ou même qu'elle ait de mauvais souvenirs en ma présence, tout en sachant que toute ma vie, j'allais me battre pour lui offrir tout ce dont elle a besoin, sans lui demander quoi que ce soit en retour. J'ai expérimenté avec ma fille l'inverse de ce que me faisaient expérimenter mes parents, à savoir l'amour inconditionnel. J'aime ma fille sans condition. Si un jour elle tue quelqu'un, mon but dans la vie sera que sa vie en prison soit la plus agréable possible. Mes parents, eux, m'aimaient de façon conditionnelle. Ils m'aimaient sous réserve que je me comporte de façon à ne pas les incommoder. C'est cela, la parentalité toxique. Quelque chose dont on n'a malheureusement pas eu le temps de parler avec Julie cette fois, mais dont j'avais déjà parlé avec elle ultérieurement, c'est que bien sûr, parfois, avec les parents toxiques, il y a des bons moments. Et ça, c'est très perturbant. Mes deux parents sont venus voir mes spectacles à Paris. Quand j'étais ado, mon père empruntait à la bibliothèque de l'université où il enseignait toutes les biographies de Marilyn Monroe car il savait que c'était mon idole et que j'aimais lire. Quand j'étais petite, ma mère m'a fabriqué une maison de poupée. Elle et mon beau-père m'ont offert un scooter pour mes 16 ans. Pendant longtemps, je me suis accrochée à ça. Ce à quoi Julie m'a répondu « Oui, bah, ce sont tes parents en fait, c'est normal de faire ça. » Fin de citation. Exactement, c'était normal. Mais au milieu du chaos, de cris et de casses, d'incompréhensions et de conversations qu'on ne peut pas avoir, le normal, le petit normal, devient bouée de sauvetage, excuse pour rester, faire semblant, se mentir à soi-même. Et quand vous êtes endormi, et que le parent toxique revient à l'assaut avec une énième maltraitance ou humiliation, cela peut être fatal. Quand mon père m'a demandé pourquoi je ne me réconciliais pas avec mon agresseur, sur une terrasse de pizzeria, j'oublierai jamais, quelque chose s'est brisé pour toujours et là j'ai su, soit je coupais les ponts, soit je me foutais en l'air. Encore aujourd'hui, tous les jours, il me revient des bribes, de souvenirs de l'un ou de l'autre. Mon père, proposant un Scrabble comme si de rien n'était, juste après que je lui ai parlé de mon agression sexuelle pour la première fois. De retour du lycée, ma mère accueillant mes amis, Alice et Ombeline, à 16h30, complètement bourrés en leur criant « Alors, vous venez voir l'ivrogne ?» Mon père hurlant « Non mais dis donc, tu te prends pour qui ?» Parce que je demande à ce qu'on frappe à la porte de ma chambre avant d'entrer. Des cadeaux qui seront systématiquement reprochés au moindre faux pas. Mon père, qui à table change de sujet à chaque fois que je parle de mes activités artistiques. Ma mère hurlant et se roulant par terre au milieu de la nuit parce que son amant part rejoindre sa femme. Il est 4h du matin et le lendemain, je dois aller au collège en 5e. Mon père me reprochant de pleurer le jour de l'enterrement d'un de mes profs de collège car ça l'incommode. Ma mère me réveillant au milieu de la nuit, l'année de mes 14 ans, pour aider son petit ami à mettre une cassette porno dans le magnétoscope. Mon père fréquentant mon agresseur en toute connaissance de cause, ma mère préférant elle-même couper les ponts avec moi et avec sa petite fille en juillet dernier, car je cite « je lui rappelle de mauvais souvenirs ». Et peut-être pire que ces traumas, c'est le cycle abus, minimisation de l'abus, abus, minimisation de l'abus. On abuse, on écrase. L'enfant plie sous le poids de l'autorité parentale utilisée à mauvais escient. Mais surtout après, on fait comme si de rien n'était, on minimise, on rigole, on offre des cadeaux, on donne de l'argent et surtout, on ne parle pas, on ne cherche pas à comprendre, sinon ce sera d'autres foudres, d'autres traumas et l'aliénation. Rien de tout cela ne me quitte, j'y pense tous les jours, certains moins que d'autres, tournant en rond dans ma tête et réalisant tout récemment que la seule chose que je peux faire, c'est de partager mon histoire de la façon la plus crue possible pour percer ce grand abcès sociétal que sont les parents toxiques et maltraitants. Ces gens qui sont nés comme ça et n'auraient pas dû avoir d'enfants ou juste des gens qui eux-mêmes ont eu des parents qui ne savaient pas faire et ont tout reproduit. Il faut qu'on se raconte les choses, qu'on se dise que ce n'est pas rien, que l'on valide ensemble la gravité de ces agissements. Dernier warning avant de laisser place à Julie Arcoulin, j'ai reçu pas mal de messages de gens se disant coach après la publication de ma vidéo. J'ai rien contre les coachs, il y en a de très très bons. J'en profite pour embrasser la mienne, Mélanie Anleyer, dont je suis les masterclass avec avidité. Mais ceux qui m'ont écrit avaient souvent de jeunes comptes Insta avec peu de followers et me disaient des banalités en m'incriminant d'être dans le faux sans connaître mon histoire. Alors attention à ces gens, ça pullule sur les réseaux et cela peut être très dommageable. je ferai bientôt un épisode sur les charlatans du bien-être. En attendant, je vous laisse avec Julie Arcoulin, dont vous vérifierez assez rapidement l'expertise. Bon épisode.
Bah écoute, c'est quand tu veux.
Ah ben moi je veux.
Alors allons-y. Bonjour Julie Arcoulin.
Bonjour Christine.
Je suis ravie de te recevoir pour la deuxième fois car j'ai perdu la carte son sur laquelle il y avait notre première interview qui date d'il y a 2 mois. Et là les auditeurs vont se dire mais c'est pas vrai, la dernière fois avec No Manos Ni, l'enregistrement il s'est arrêté au beau milieu. Ça va bien, de voir les choses en positif, en disant « oui, c'est super qu'il soit arrivé ça ». Mais en vrai, si, c'est super que ça soit arrivé, parce que déjà, j'ai pu voir que t'étais une belle personne. Parce que quand je t'ai appelée pour te dire « j'ai perdu la carte, il faut tout recommencer », t'as rigolé. Donc en fait, moi, ça m'aurait tellement saoulée, parce que t'étais venue de Bruxelles.
Oui.
T'étais venue de Bruxelles pour faire cet enregistrement. Du coup, là, c'est moi qui suis venue à toi.
Oui.
On est ici dans un studio d'enregistrement en Belgique. Et surtout, j'étais contente parce que j'ai réalisé, comme tu es thérapeute spécialisée dans les relations toxiques, en fait, je t'ai raconté ma vie dans l'enregistrement. Et là, les auditeurs, ils vont se dire « chut, on voulait savoir !» Mais c'est vrai que je me suis beaucoup épanchée sur mes traumas d'enfance et ce que j'avais subi de la part de mes parents. Non pas que j'ai pas envie de le raconter, puisque j'en parle assez régulièrement dans mes vidéos sur TikTok et dans mes livres. C'est juste que c'est pas ça que je voulais faire avec toi. Je voulais vraiment apporter des clés concrètes aux gens qui ont grandi dans un environnement dysfonctionnel, qui se sont fait rabaisser, harceler par leurs parents, manipuler, et qui aujourd'hui, à cause de ça, ont du mal à créer. Est-ce que ça te parle ?
Oui, tout à fait.
Peut-être parce que tu as écrit un livre à ce sujet.
Par exemple.
Oui, tu as écrit un livre que j'ai dévoré qui s'appelle « Comment survivre aux parents toxiques ». D'où est venue cette nécessité d'accoucher de ce livre ?
C'est une très bonne question.
Alors que j'avais pas posé la dernière
non,
fois.
Non, c'est vrai. C'est vrai.
Que ça tombe plutôt bien.
Et comme c'est un livre qui date un peu, j'aime bien qu'on me ramène à l'écriture de ce livre parce que c'est le premier. Je l'ai écrit en 2015, je crois, et il est sorti en 2016. Mais écoute, bon, jouons carte sur table. Ce qui m'a amenée à écrire ce livre, c'est parce que j'ai moi-même bien connu un parent toxique. Et ce qui est assez drôle dans ma carrière, c'est que finalement, quand je me suis lancée, je n'avais pas cette spécialité-là. Mais les gens venaient à moi en me disant « je veux me libérer de mon mari, de ma femme, de mon père, de ma mère, de ma tante, de mon ami, de mon je sais pas quoi, toxique, manipulateur ». Et puis je me disais mais pourquoi ces gens viennent à moi en fait ? Parce que ce n'est pas ça que j'affichais comme spécialité. D'ailleurs, je n'en affichais pas à ce moment-là, au tout début.
Est-ce que tu es thérapeute
Je suis coach en fait.
Donc, oui, d'accord,
en Belgique, on peut dire thérapeute ouais. Sans avoir le. C'est un peu différent qu'en France. Et je me retrouve plus dans le mot thérapeute parce que tu sais, les coachs, c'est quand même un peu puriste. Tu as un point A, tu vas à un point B, qu'est-ce que tu fais ? Moi, c'est quand même un peu plus sinueux, mes accompagnements, surtout dans ces sujets-là. Donc voilà, en fait, on est venu à moi avec ces demandes-là. Et puis, je me suis dit. Ok, déjà à l'époque, je savais qu'il n'y avait pas de hasard. Donc, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis, ben, voilà, j'ai additionné un et un. Et puis, je sais depuis toute petite que j'ai envie d'écrire. Et donc, assez naturellement, à un moment, je ne savais pas quoi, je ne savais pas, tu sais, mais je savais que j'allais écrire. Et puis, survivre aux parents toxiques est venu comme le premier jalon. D'un chemin de reconstruction, de prise de conscience, d'un tas de choses comme ça. Et survivre aux parents toxiques est vraiment la première brique, c'est le cas de le dire, à ce chemin, quoi. Et puis il y a eu sortir de l'emprise, et puis il y a eu stop aux relations toxiques. Non, il y a eu stop aux relations toxiques, et puis sortir de l'emprise, je crois. Et puis clouer le bec au patriarcat. Mais le premier, il est quand même important.
Est-ce que tu n'as pas un petit peu finalement écrit le livre que tu rêvais d'avoir entre les mains
Exactement.
Il y a 15 ans ouais.
Exactement. Mais c'est comme ça que j'ai écrit tous mes livres. Je me suis vraiment dit, ok, de quoi j'aurais eu besoin moi au moment où je voulais sortir de l'emprise, où je voulais arrêter les relations toxiques, parce que j'en ai évidemment connu une petite série. Et puis clouer le bec au patriarcat, même chose, quand j'ai débarqué dans le féminisme, je me suis dit, non mais attends, mais tous ces essais, alors très bien et très brillants en soi, mais quand tu débarques, c'est un peu compliqué. Je trouvais que c'était un peu compliqué de démarrer le sujet. Et donc, moi, j'avais vraiment envie d'un livre très... OK, tu peux tout ce que tu dois savoir pour bien comprendre les essais de brillantissimes de Mona Chollet, de Lorraine Bastide ou même de Rose Lamy, notre féministe française qui vit maintenant en Belgique, de Préparez-vous pour la bagarre. T'as besoin quand même de 2-3 trucs quoi, à savoir pour mieux comprendre ces essais-là. Donc oui, tous les livres que j'ai écrits, c'est vraiment avec ça. C'est qu'est-ce que j'aurais eu envie de lire, qu'est-ce que j'aurais eu besoin de lire, qu'est-ce qui m'aurait aidé à tous ces moments-là.
Surtout que quand on a eu des parents toxiques, déjà, on met beaucoup de temps à s'en rendre compte et on se sent un peu seul. On se dit non, mais c'est mon histoire, non, mais j'exagère, etc. Moi, j'ai pris la mesure de la chose quand j'ai fait ma vidéo. J'ai eu des parents toxiques, bien sûr que, et j'ai fait plus de 2 millions de vues. Et en fait, j'ai reçu énormément de messages de gens qui avaient eu des parents toxiques, mais aussi de gens qui s'en prenaient à moi en me disant « Mais et si c'est toi qui étais une enfant difficile, et c'est trop facile de taper sur ses parents, etc. » Et là, je me suis dit « Waouh, gros sujet !» Donc, on va en parler et on va essayer d'aller dans l'ordre. Déjà, contrairement à la dernière fois où c'était parti dans tous les sens, qu'est-ce qu'un parent toxique, Julie ?
Alors, c'est un parent qui... Il y a plusieurs critères en fonction de la toxicité, évidemment, mais globalement, c'est un parent qui va plutôt servir ses propres intérêts à lui et pas à son enfant, qui va utiliser des mécanismes comme le chantage affectif, la culpabilisation, la double contrainte. J'aurai peut-être l'occasion de dire un
mot sur ces outils. Oui, on va en parler de la double contrainte, bien sûr. Ouais.
Tout à fait. Donc, c'est vraiment un parent qui ne va pas prendre en compte les besoins de ses enfants, qui va être violent, par exemple, psychologiquement ou physiquement. C'est un parent qui va considérer ses enfants comme des objets, pas comme des sujets. Vraiment, le truc global, c'est un parent qui ne se remet pas en question. Parce que, bon, alors moi, j'ai pas d'enfant, mais on peut faire des bourdes en étant parent. Il n'y a aucun problème. Faut faire le deuil de la parentalité parfaite. Il faut juste à un moment pouvoir se remettre en question, dire « je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça ». Le parent toxique, il va toujours te faire croire que c'est ta faute. Il va pas prendre sa responsabilité, la responsabilité de son erreur ou de son comportement violent. Il va toujours mettre la faute sur les enfants ou sur toutes les autres personnes d'ailleurs de son entourage. Donc voilà, une personne toxique / parent toxique, c'est vraiment quelqu'un qui ne va jamais se remettre en question, jamais prendre ses responsabilités, qui va être dans la culpabilisation, dans la double contrainte, dans le chantage, dans tous ces mécanismes qui, au final, mettent les enfants sous emprise.
Donc si vous vous demandez si vous avez des parents toxiques, le premier red flag, d'ailleurs à ce propos je me demande si c'est pas dans ton livre, il y a un test à faire, parce que quand on expose à ses parents l'expression de son trauma ou de son mal-être, si la personne n'écoute pas et tout de suite fait barrage avec de la victimisation ou des fausses excuses ou une version erronée de la réalité qui l'arrange, gros 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 red flag, on a sûrement affaire à un parent toxique, on est d'accord ?
Oui. Oui, alors il y a ça, maintenant... C'est compliqué parce qu'il y a des générations de parents qui ne sont pas équipés pour accueillir les traumatismes. Je ne veux pas du tout les légitimer ni les défendre, mais je crois que c'est important de voir ça aussi de cet angle-là. Donc il y a une génération de parents, et même il y en a encore aujourd'hui, il faut arrêter de parler des générations, c'est encore le cas aujourd'hui, qui ne sont pas équipés pour accueillir les traumatismes parce qu'ils n'ont pas conscience eux-mêmes d'en avoir vécu. Parce que pour eux c'est normal de fonctionner comme ça et qui n'ont pas fait la mise à jour et la déconstruction de l'ancien système. Donc évidemment que c'est toxique, mais on n'est pas forcément face à une personne toxique. Tu vois, quelqu'un qui ne peut pas accueillir le trauma parce que juste il n'a pas les outils, c'est quand même encore différent que quelqu'un qui, dans ton quotidien, à répétition, en permanence, te fait croire que t'es de la merde, te fait du chantage, de la culpabilisation, etc. Donc, pour moi, il faut distinguer le comportement répétitif et quotidien de l'incapacité à accueillir un trauma parce que t'es pas équipé, parce que ça fait pas partie de ton...
ton mode d'emploi, enfin c'est pas le mode d'emploi qu'on t'a donné, t'as pas été équipé pour ça, c'est deux choses différentes. Mais le parent toxique, évidemment, n'accueille pas les traumas de ses enfants.
Donc ça peut être déjà une case à cocher. Deuxième chose pour reconnaître un parent toxique, ou un proche toxique, ou un ami toxique, hein, ça marche aussi, c'est l'impression toujours de marcher sur des œufs en sa présence. Est-ce que tu confirmes ?
Oui, ça c'est un peu la double contrainte. Hein. Tu fais A, c'est pas bon,
ouais.
Tu fais B, c'est pas bon non plus. Donc, le parent toxique, t'es toujours en train de te dire qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille bien. Et puis, quand ça va pas bien, parce que de toute façon, avec une personne toxique, c'est pas possible que ça aille bien, tu vas te dire qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça aille mieux. Donc, tu peux pas être toi-même, t'oses pas t'affirmer, t'oses pas contredire. Puis, à certains moments, t'as même pas l'idée de contredire. Hein, ou de t'affirmer, c'est juste, bah ça c'est vraiment l'emprise. Mais donc oui, t'es toujours un peu en mode, je serre les fesses, je marche sur des œufs, et comment il est luné, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va déclencher, enfin, c'est un malaise permanent en fait.
Et le troisième, parce que j'aime bien marcher par règle de trois, après on va revenir sur la double contrainte parce que c'est un gros morceau, c'est aussi quand on avance après dans la vie, donc quand on est sorti du cocon parental, c'est qu'on ne sait pas mettre de limites et on va avoir tendance à ne pas savoir dire non et à se laisser maltraiter, notamment à aller se mettre en couple avec des conjoints qui étrangement ressemblent à nos parents. Et ça aussi, c'est une case qu'on peut cocher, c'est si vous avez tendance à vous entourer de gens toxiques, c'est qu'a priori vous avez grandi avec des gens toxiques.
Ouais, il y a toujours un arbre qui cache la forêt. donc souvent quand on vient me voir en consulte pour cette raison-là, quand on me dit mon conjoint, je crois que peut-être mon conjoint est toxique ou peut-être c'est moi, je ne sais pas. Moi, je suis là, parlez-moi de vos parents. Et bon, je fais le raccourci, hein, mais oui, on découvre souvent par le biais d'un collègue toxique ou d'un conjoint, d'une conjointe, toxique, qu'un des parents l'était et que ça a inscrit ce schéma dans notre inconscient, dans nos cellules, dans notre corps, dans notre façon de fonctionner, qui fait qu'on va aller toujours assez facilement et spontanément vers ce schéma-là, puisque c'est ce qu'on connaît et on croit que c'est OK.
Parce que c'est la maison, en fait. Hein.
Voilà.
Il y a aussi, tu sais, c'est par là où je suis passée, c'est le sujet de mon livre, le jour où j'ai réalisé que la personne toxique, c'était moi. C'est-à-dire que moi, je n'ai fréquenté que des personnes toxiques jusqu'à très tard, parce que déjà, ils me rappelaient ma famille. Et aussi, j'ai une de mes psychiatres qui m'avait dit, mais c'est parce que vous voulez rejouer le film. C'est-à-dire, vous voulez revivre la situation pour essayer de créer un dénouement heureux.
Exactement.
Ouais.
Oui, tu rejoues ce que tu n'as pas réussi à faire avec ton parent toxique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas jamais réussir à rendre ton parent toxique sain, parce que c'est jamais quelqu'un d'extérieur qui peut faire ça. C'est toujours la personne qui est toxique, qui doit faire le travail lui-même. Donc, mais c'est ça qu'on reproduit, en effet. J'y suis pas arrivée là, donc je vais réessayer. Je vais réessayer de tous les côtés dans toutes mes relations. Certainement quand on est une femme et que on est programmé pour sauver les autres, leur donner tout notre amour, en se disant que du coup ça va changer. Voilà, il y a quand même une propension supplémentaire des femmes à se retrouver dans des schémas toxiques. J'ai aussi des hommes en consulte, moins, mais parce qu'aussi je pense que c'est pas leur culture de faire un travail sur eux, etc. Mais je pense aussi sincèrement qu'en fait, les femmes sont programmées à ça encore plus que les hommes.
Parce qu'on est grandi dans le culte, on est élevé dans le culte de la docilité. Les femmes les petites filles, on leur dit d'être bien sages. De moins en moins, j'ai l'impression, mais en tout cas à mon époque, j'étais en plein dedans. Alors que les garçons, on leur passe énormément de choses. Ce qui fait qu'après, on a des adultes hommes qui savent s'écouter, faire ce qu'ils veulent, ne pas se mettre de limites. Alors qu'on a des femmes qui vont s'excuser d'exister.
Et exactement.
Donc, qui vont être plus à même d'être victimes de gens qui, eux, savent très bien ce qu'ils veulent et manipuler les gens pour avoir ce qu'ils veulent.
Oui. Et les petites filles sont plus élevées aussi dans le don d'elles-mêmes, dans le soin des autres, dans la participation aux tâches ménagères. Je discutais il n'y a pas longtemps avec une amie qui a une fille et un fils qui est extrêmement féministe. extrêmement branchée, connectée à la déconstruction du patriarcat, et qui me disait, parfois je me vois, j'ai envie de me frapper, quoi, parce que je vois que je demande des choses différentes, et j'en rais à l'un et à l'autre de mes enfants. Donc voilà, et oui, c'est sûr, les filles sont encore éduquées dans le soin à l'autre, bien plus que les garçons.
Bon, en tous les cas, moi, j'ai été une vraie connasse. Et je sais pourquoi. Parce qu'en fait, comme j'ai grandi dans un milieu où on me harcelait, on m'humiliait, et c'est tout ce que j'ai vécu extrêmement pervers, quand je suis arrivée dans la vraie vie, je me suis dit, tout le monde est comme ça. Donc, je vais moi-même être toxique et méchante et de façon à piéger les gens avant qu'ils me piègent, en fait. Après, tu réalises qu'en fait, t'es malheureux tout le temps et que c'est pas du tout... Et tu réalises qu'il y a des gens gentils, en fait. En tous les cas, je voudrais qu'on parle tout de suite de la double contrainte, parce que ça, c'est un truc que j'ai découvert dans ton livre et qui est une torture, en fait. Hein.
Oui. Alors, la double contrainte, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu fais A, c'est pas bon. Tu fais B, c'est pas bon non plus. La double contrainte a été reconnue par Amnesty International, si mes souvenirs sont bons, oui c'est ça, comme de la torture mentale, donc ça rend fou. Et il y a un exemple que j'aime bien, je sais pas si c'est exactement le bon mot, mais que j'aime bien utiliser en tout cas, c'est une petite fille qui, c'est un exemple vrai, hein, c'est pas pour la métaphore, c'est vraiment vrai. Petite fille à qui la maman, du coup, une maman toxique, demande de trier un bocal avec plein de boutons. De différentes formes et de différentes couleurs. Et elle lui dit, je voudrais que tu les tries par couleur. Mais tu sais, c'est le bocal, personne n'a envie de se taper ça, quoi. Et d'abord, la petite fille dit, non, j'ai pas trop envie. Et puis, la maman insiste. Et puis, la petite fille bien docile et obéissante le fait. Et puis, quand elle est en train de trier, la maman passe, lui met une claque sur la tête et dit « Tu vas toujours faire toutes les conneries que je te demande de faire ?» Voilà. Typique de la double contrainte. Tu fais A, donc tu dis non, c'est pas bon. Tu fais B, tu te fais humilier parce que tu fais les conneries qu'on te demande. Donc ça, c'est vraiment la double contrainte. Alors, il y a l'exemple aussi un peu plus bateau. D'une maman, toujours une maman, bon ça suffit les exemples avec les mamans, qui offre deux cravates, une rouge, une bleue, le lendemain, donc à Noël, une cravate rouge, une cravate bleue, le lendemain, le fiston descend avec la cravate rouge et il dit « quoi, t'aimes pas la cravate bleue ?» Et puis il va mettre la bleue, il dit « du coup t'aimes pas la rouge ?» Voilà, quel que soit ce qu'on fait, ce sera pas bon, ce sera détourné, utilisé, pour être humilié, dévalorisé, insulté, la double contrainte, c'est comme ton cerveau, en fait, il cherche toujours aussi une solution pour sortir du conflit, pour sortir de la situation toxique dans laquelle il est. Mais c'est ça qui fait ruminer beaucoup les victimes. C'est que, donc les victimes de parents toxiques / personnes toxiques, c'est que comme elles sont face à de la double contrainte en permanence, elles sont tout le temps en train de
hyper-vigilance. Et se dire, mais dans ces cas-là, à penser qu'il existe une solution.
C'est ça.
Donc, il y avait bien une cravate qu'il fallait que je mette. Laquelle était-ce?
Ouais.
Alors qu'en fait, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de bonne réponse.
Donc, pour sortir de la double contrainte, parce que c'est ça qui est intéressant aussi finalement, c'est donner des clés. Sortir de la double contrainte, c'est faire toujours en fonction de soi.
C'est s'affranchir, en fait, de l'opinion du parent toxique et de la validation du parent toxique.
Exactement. Et moi, je dis toujours, quoi que vous ferez, ce ne sera pas bon. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous semble mieux, le plus juste pour vous? Et si vous vous accrochez à ça, je n'ai pas dit que ce sera facile, la parentalité toxique, on va spoiler tout de suite. Hein. Pour moi, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres solutions que de couper les ponts. C'est pas toujours facile, on n'est pas obligé de le faire du jour au lendemain, on peut faire des étapes, etc. Mais à terme, voilà. Donc là, pour sortir de la double contrainte, c'est toujours revenir à soi. Mais comme beaucoup de choses, finalement, une bonne solution, c'est de toujours revenir à soi et de faire en fonction de ça.
Merci déjà de m'avoir apporté cette connaissance, le fait qu'il y ait une étiquette, un mot scientifique. Moi, ça m'a beaucoup aidée quand j'ai lu ton livre, parce que moi, quand je fréquentais encore mon père, la phrase qui me venait tout le temps, que je n'osais pas du tout lui dire à voix haute, parce que sinon j'aurais pris ses foudres, c'était « de toute façon, avec lui, c'est jamais bien ». Je me disais tout le temps ça. Bah, de toute façon, avec lui, c'est jamais bien. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais subi la double contrainte pendant 35 ans et que ma grand-mère aussi était comme ça. Donc, je pense que mon père a dû subir ça de sa mère. Et en fait, après, ce sont des gens qui vont regarder leur enfant à travers le prisme. Enfin, moi, j'avais l'impression d'être scannée, que mon père me scannait tout le temps pour voir ce qui allait pas, pour me dire ce qui allait pas. Tu vois, et de me donner des objectifs inatteignables aussi.
Oui.
Parce qu'une fois que je les atteignais, effectivement, soit tout de suite après, il y avait un autre objectif, soit on me disait que finalement, l'objectif qui était atteint, c'était pas si difficile que ça à atteindre, en fait.
Non. Oui, il y a... Alors, avec les objectifs inatteignables, il y a aussi l'appropriation de la réussite.
Tu vois, oui, donc, bien sûr. Ouais.
Si tu arrives à l'objectif, ça va être « mais c'est grâce à moi, tu ne serais jamais arrivé sans moi ». Si tu n'y arrives pas, ça va être...
T'es nul.
Bah, t'es nul, tu vois.
Ouais.
Donc, il y a ça et il y a aussi...
Ou ça peut être aussi grâce... Excuse-moi, je te coupe. Mais mon père, il m'avait dit une fois, quand je suis rentrée au Jamel Comedy Club, il m'a dit « bah, il est bien gentil, Jamel ».
Ah ouais, putain.
Ça veut dire qu'en
tu
fait...
Tu m'avais dit.
Ça veut dire que soit c'est grâce à lui...
C'est jamais grâce à toi, en tout cas.
Soit c'est grâce à la charité de quelqu'un. Et on est vraiment d'accord pour dire que Jamel Debbouze est quelqu'un qui prend des gens nuls dans sa troupe par charité d'âme. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais...
Non, mais oui, c'est ça. C'est que de toute façon, ça va jamais... il va jamais y avoir de reconnaissance et de validation. Et c'est ce qui va créer aussi le cercle vicieux, c'est que les enfants victimes de parentalité toxique vont toujours être dans l'attente et dans la recherche de cette reconnaissance et de cette validation. Et c'est ça qui crée la dépendance. Alors c'est ça qui crée aussi la dépendance affective, après dans les autres relations, etc. C'est qu'on est toujours en train d'essayer de se sentir aimé, en fait. Et le parent toxique, attention, ça va piquer pour celles et ceux qui écoutent, ne sait pas aimer son enfant. Alors, évidemment, dans le nuancier des parents toxiques, il y a quand même pas mal de nuances, justement. Mais quand on est incapable de considérer son enfant comme un sujet et qu'on le considère comme un objet et comme une prolongation de soi pour nourrir son ego, ses intérêts, etc., il n'y a pas d'amour là-dedans. Donc, quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup en conférence, en consulte et dans mes livres et dans mes articles, c'est... Si vous avez parce qu'il y en a qui vont nous écouter aussi parce qu'ils ont fait un enfant avec une personne toxique.
Mm-hmm. Tu en parles aussi dans le livre.
Ouais. Donc, c'est bien aussi de dire à ces personnes-là, si votre enfant revient en vous disant, par exemple, pardon, mais ce sont les exemples que j'utilise parce que c'est ceux que j'ai dans ma pratique, maman, j'ai l'impression que papa ne m'aime pas. Ne dites pas, mais oui, il t'aime à sa façon. C'est faux. Et violenter quelqu'un psychologiquement, physiquement, utiliser tous les outils dont on a déjà parlé pour mettre sous emprise, c'est pas ça aimer. Donc ne brouillez pas d'abord l'instinct de votre enfant qui sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que si on brouille ça, c'est comme ça qu'on enferme les enfants dans de la parentalité toxique et dans des relations toxiques par après.
Parce qu'après ils disent c'est ça
voilà.
L'amour d'une certaine façon, donc quand je vais subir ça de quelqu'un d'autre, je vais l'accepter comme de l'amour alors que c'est de la perversité.
Oui. Ouais. Et c'est comme ça qu'on aime. Donc ne brouillez pas les pistes de vos enfants. Si ils arrivent en vous disant maman j'ai l'impression que papa m'aime pas, ou papa j'ai l'impression que maman m'aime pas, comme ça on est bien inclusive, questionnez. Ah bon, qu'est-ce qui te fait penser ça? Et toi, c'est comment quand tu aimes quelqu'un? Comment tu sais que tu aimes quelqu'un? Comment tu sais que tu es aimé? Questionner l'amour, mais n'allez pas lui dire « mais si, il t'aime à sa façon ». À court terme, c'est ce qui va soulager. Et le parent à qui l'enfant dit « j'ai l'impression que l'autre parent m'aime pas » et l'enfant. Mais à long terme, ça va vraiment brouiller toutes ses pistes et toute sa capacité à identifier si quelqu'un l'aime ou pas. Donc c'est vraiment un mauvais calcul de répondre ça.
Ma psychiatre m'avait dit que en fait j'étais partie avec une mauvaise cartographie du monde. C'est-à-dire que quand tu grandis avec des parents dysfonctionnels, c'est comme si on te disait d'aller trouver ton chemin dans Paris avec une mauvaise carte de Paris en te donnant une carte de New York. Tu trouveras pas ton chemin dans Paris avec une carte de New York. C'est un petit peu ça, c'est que finalement tu te retrouves avec des règles du jeu qui sont perverses déjà, mais qui ne correspondent pas du tout à une vie saine et à la plupart des gens en plus.
Non, tout à fait. Oui, ça brouille complètement. Bah oui, ça brouille complètement les pistes et tu sais pas par où aller. Tu sais pas où il faut aller pour avoir des relations saines.
Et moi, c'est ce qui m'a rendue toxique, c'est que j'ai souvent imposé les règles du jeu de mon père ou de ma mère aux gens que je fréquentais. En fait, ces jeux de jeux de pouvoir, de manipulation, parce que je pensais que c'était ça la vie.
Mmh.
Tu vois ce que je veux dire?
Mmh.
Aussi, tu parlais d'amour. Moi, comme mon père, quand il allait un petit peu trop loin, il avait tendance à me donner des grosses sommes d'argent. Alors, on est d'accord, les cadeaux, ce ne sont pas des excuses. Ça, c'est une erreur aussi qu'on fait.
Oui. Oui, il y a beaucoup de parents toxiques, manipulateurs qui fonctionnent comme ça. C'est le chaud et le froid, en fait. Ça aussi, c'est...
C'est le cercle abus-minimisation. C'est-à-dire que je t'abuse, après je minimise l'abus, soit en faisant des plaisanteries sur l'abus, soit en faisant comme si ça n'est jamais arrivé, soit en faisant des cadeaux souvent de très grande valeur, c'est ça?
Oui. Et bon, alors tous les parents toxiques n'ont pas les moyens de faire des cadeaux
non,
de grande valeur.
Non, moi j'ai eu la chance d'avoir un parent toxique riche.
Mais c'est aussi une façon de brouiller les pistes, parce que normalement... quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est pour lui témoigner de l'affection, de l'amour, de la reconnaissance. Enfin, le cadeau, symboliquement, c'est quand même... ça a de la valeur, quoi. Enfin, sauf avec les gens toxiques, évidemment. Mais dans le cas d'une parentalité toxique, quand tu reçois un cadeau, c'est pour te rendormir. C'est pour te refaire passer dans la phase lune de miel, qui est la phase où du coup ça va mieux parce que voilà, c'est pas la crise est passée, et puis avant la prochaine crise, hein, c'est pas ça, mais donc oui, les cadeaux, c'est ce qui aveugle, c'est ce qui fait aussi qu'on est parfois dépendant de son parent toxique, surtout s'il a de l'argent.
Ouais, le parent toxique riche va avoir tendance à faire en sorte qu'il puisse te tenir par l'argent, tout en te reprochant, moi c'est ce que j'ai vécu, en te reprochant d'être toujours tributaire de lui, c'est-à-dire il va faire en sorte que tu restes tributaire de lui pour t'avoir toujours sous le coude, tout en te reprochant de pas... Et moi, je me rappelle quand je lui ai dit d'arrêter, parce qu'il me donnait de l'argent tous les mois, et en fait, jusqu'à cet arrêt, quand je lui ai dit « Papa, je gagne extrêmement bien ma vie maintenant, tu peux arrêter de me verser 500 euros par mois, c'est fini. » Ça a été dur, ça, il a mis du temps pour faire la manip, parce que pour lui, c'était j'ai plus d'emprise financière, en fait.
Il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a à nouveau de la double contrainte.
Ouais.
Donc,
oui, parce que le fait qu'il me donnait ce qu'il appelait ma pension, à chaque fois qu'on se disputait ou que je reprochais des choses, c'était la menace. Et bah, puisque c'est comme ça, je vais arrêter de te donner ta pension. Et effectivement, quand j'avais 20 ans, ça veut dire que j'allais crever la dalle, en fait. Mais une fois que j'ai eu bien gagné ma vie, ça n'avait plus aucun... Et là, là je sentais que c'était douloureux pour lui.
Oui, donc il y a la double contrainte, c'est t'as besoin de moi, c'est bien, je t'aide, et puis je te le reproche parce que en fait t'es pas capable d'être autonome. Mais c'est le parent toxique qui crée ce lien de dépendance. Et puis il y a justement cette dépendance qui fait passer la relation dans des relations de pouvoir et de domination. Parce que, ben oui, ma foi, quand tu démarres la vie et que quelqu'un te verse 500 euros par mois, tu vas pas... Enfin, très naturellement, tu vas dire « Cool, je dois pas aller distribuer des mars à 6h du mat' en plein hiver pour gagner de l'argent. » Donc, il y a une forme de dépendance qui s'installe parce que tu organises ta vie en fonction de ce que tu as et de ce que tu ne dois pas t'esquinter à faire si tu l'as, entre guillemets, tout cuit. Mais ça crée du pouvoir et de la dépendance, et le parent toxique va l'utiliser, bien sûr, en disant tu sais pas t'en sortir sans moi, et en faisant du chantage, et en faisant de la culpabilisation, enfin voilà.
Et à l'écouter, les 500 vont devenir 5000, la façon dont il en parle.
Oui.
Donc ça, c'est une première chose. Donc là, on a affaire, parce que moi, j'ai beaucoup de chance, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler, c'est que moi, j'ai les deux types de parents toxiques. J'ai ce que j'appelle le joueur d'échecs, à savoir mon père, donc le manipulateur, et j'ai le parent-enfant, dont tu parles aussi dans le livre, ça c'est ma maman, pour qui j'ai un peu plus de, comment dirais-je, d'empathie. C'est le petit enfant qui est emprisonné dans un corps d'adulte. Et là, c'est une autre forme de toxicité, c'est la toxicité drama. C'est la toxicité un peu, je m'ennuie, tiens, je vais créer une dispute, en fait. Tu parles aussi de cette toxicité dans le livre. Est-ce que, alors moi, c'est moi qui compartimente les deux, parce que j'ai connu les deux, et que quand je vois mon père et ma mère, je vois bien que c'est pas du tout les mêmes modes d'attaque. Est-ce que pour toi, il y a vraiment deux types, ou est-ce que non, ça reste le même type, ou est-ce qu'il y a au contraire plusieurs types?
Écoute, moi, je travaille particulièrement avec la parentale, avec le parent toxique, manipulateur, pervers narcissique. Après, bien sûr, dans le nuancier, un parent alcoolique va être un parent toxique, un parent dépendant à toute, à la drogue, à l'alcool, au jeu, au sexe, va être un parent toxique parce que ça va être un parent qui ment, qui manipule, etc. Je pense que dans le cas de ta maman, en effet, un parent-enfant qui prend pas ses responsabilités... Tu vois, je trouve que c'est quand même souvent très, très commun. Donc, elle prenait pas ses responsabilités, elle faisait probablement du chantage et de la culpabilisation. Alors, c'est d'autres formes, mais c'est le même fond, j'ai l'impression. Parce que finalement, ton père, c'était probablement aussi un enfant. Alors, déguisé dans un autre... tu vois, c'est une autre forme, mais je pense que le fond, il est à peu près pareil. Ce sont des gens très égocentriques. Mais ta maman, j'imagine, alors du peu que tu m'en as dit... salut, madame, si vous nous écoutez.
Elle n'écoutera pas.
ta maman, du peu que tu m'en as dit, j'ai l'impression que c'était aussi un peu le même genre. Égocentrique, culpabilisatrice, chantage. Donc, je pense que ce sont des... avec des moyens différents, dans le sens où peut-être ton père, c'était avec l'argent, enfin si je caricature évidemment, mais tu vois, c'était plus avec des moyens de pouvoir, que ta maman, c'était des leviers plus émotionnels, plus affectifs. Mais j'ai l'impression que si on devait faire la liste des outils, et si je devais te dire, bon, est-ce qu'elle te culpabilisait? Oui. Est-ce qu'il te culpabilisait? Oui. Je pense qu'à la fin... la liste serait à peu près remplie de la même façon.
Tu crois? Moi, j'ai l'impression que ma mère, c'était une petite fille de 8 ans qui, en fait, utilisait tout ce dont tu viens de parler, la culpabilité, juste pour continuer à rester une petite fille de 8 ans. C'est-à-dire que ma mère va être quelqu'un d'adorable si on la laisse être une petite fille de 8 ans. Tu vois, mais c'est pas possible, malheureusement. Tu vois. Après, une fois que t'as fait le deuil, que tu sais que tu peux pas compter sur ta mère et que ce sera toujours une petite fille de 8 ans, mais quand t'as 20 ans et tu vois que... Et c'est difficile de dire oui, mais
alors,
c'est une autre forme de toxicité.
L'intention est différente, probablement, ouais, entre ta maman et ton papa. L'intention, souvent, des parents toxiques, en tout cas manipulateurs, pervers narcissiques, c'est de détruire l'autre. L'intention de ta maman était peut-être de survivre, elle. Tu vois, peut-être que là, ça se joue aussi dans la toxicité, c'est quelle est l'intention de la toxicité, qu'est-ce que ça permet à la personne toxique d'avoir comme défense. Parce que finalement, la toxicité, il y a les défenses perverses, etc. Enfin bon, on va pas faire de la... ça va être trop compliqué. Mais on s'en fout, en fait. En fait, c'est ça aussi que j'ai envie de te dire. En fait, on s'en fout de savoir... la différence, parce que le résultat, il est le même. C'est-à-dire, c'est pas constructeur pour un enfant, c'est pas sécurisant, c'est pas valorisant, t'es pas dans un milieu aimant. Donc, blanc bonnet blanc, pff, tu vois, c'est pas... au final, je pense que les conséquences sont les mêmes, même si l'intention de la personne toxique est éventuellement différente, les procédés sont pareils, les mécanismes sont pareils. Un parent alcoolique, il va mentir. Il va manipuler, il va faire de la culpabilisation parce qu'il ne veut pas prendre sa part de responsabilité dans son alcoolisme, d'où le déni, etc. Bon, je ne généralise pas, je ne connais pas tous les alcooliques du monde, mais grosso modo, ce qui est toxique, c'est ça. Donc, ta maman de 8 ans...
Oui, non, mais ce n'est pas un lapsus. Ma maman de 8 ans, oui, c'est tout à fait vrai.
J'adore.
Ouais, tu as raison.
voilà, ta maman de 8 ans à l'intérieur d'elle-même, même si elle en paraît plus, elle va utiliser les mêmes procédés et donc ça va avoir les mêmes effets sur toi. C'est-à-dire pas de solidité, ni chez ton père ni chez ta mère, et du coup difficilement constructible pour toi, ta propre solidité. C'est ça aussi le travail après.
Oui, on parlait de deuil tout à l'heure, ça aussi tu en parles dans le bouquin, c'est-à-dire qu'il y a une étape qui est difficile mais qui est essentielle, c'est le deuil du parent véritable. Et c'est un peu chaque jour, hein, ce deuil-là. Je t'en avais parlé la dernière fois, c'est que moi souvent j'ai ce sentiment un peu universel, j'ai l'impression de vouloir sa maman, mais c'est pas ma maman. C'est-à-dire que quand je vais être face, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai dû aller au commissariat, j'en parlerai dans un autre podcast, mais j'ai dû porter plainte. Et en fait, c'était tellement violent ce que j'ai vécu au commissariat, de devoir lâcher ça et de sortir tout. Je voulais ma maman. C'est-à-dire, je voulais appeler quelqu'un, je voulais appeler l'archétype maman pour me confier, pour qu'elle me prenne en charge émotionnellement. Et que je puisse ne plus penser à rien et m'abandonner complètement à la figure maternelle idéale, qui dans ma vie n'existe pas. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir cette figure maternelle-là, solide et aimante et inconditionnelle. Et en fait, mais je, comme si c'était dans mon ADN, je suis sortie du commissariat, je voulais ma maman, qui n'existe pas, cette maman-là. Tu vois ?
Oui. Mais tu sais, c'est là aussi où je pense que... Dans mon histoire, par exemple, ce qui m'a sauvée, c'est de déconstruire ces figures-là et de me dire, en fait, toute cette histoire qu'on nous a racontée, papa, maman, la famille, c'est important. Oui, mais c'est quand même ton père. Oui, mais c'est quand même ta mère. C'est que je me suis dit, mais en fait, ce qu'on attend d'une maman et qu'on est en droit d'attendre, hein, voilà, on peut le trouver ailleurs. Et moi, j'ai vraiment... Il y a eu un moment dans ma vie où je me suis dit, mais en fait, c'est du bullshit qu'on m'a raconté. Bien sûr, je suis contente, heureuse, reconnaissante qu'au moins un de mes deux parents soit pas toxique. Mais par contre, je peux trouver ce que je cherche quand j'ai besoin que mes émotions soient accueillies. Je peux les trouver... chez n'importe qui. Non. Parmi à peu près toutes les personnes de mon entourage proche. Et donc je pense que ça, c'est utile aussi de déconstruire ce truc de l'archétype de la maman, l'archétype du papa, tout ça en plus est très genré. Hein, bon. Parce que notre force, c'est qu'on peut le trouver ailleurs. Et qu'en fait, mais combien de parents ne sont pas capables d'accueillir les émotions de leurs enfants parce qu'ils sont eux-mêmes pas capables d'accueillir les leurs. Enfin, et je dis ça sans aucun jugement, hein. C'est juste on n'est pas toujours bien équipé pour faire ce dont nos enfants ont besoin et c'est enfin voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est normal. Tous les enfants du monde auront un reproche à faire à leurs parents, faut s'y faire. Mais on peut trouver tout ça ailleurs et ça aide le deuil aussi. Et je pense que c'est Jacques Salomé qui parle de cette notion aussi de se greffer des prothèses de parents. Mmh. Et donc, ben, quand t'as un parent toxique ou un parent mort éventuellement, ben, c'est comme si on t'avait amputé une partie de ce dont t'avais besoin pour te construire. Mais tu peux te l'auto-greffer de toi-même à toi-même en allant le chercher chez d'autres personnes qui sont toutes disposées à être juste là et à juste accueillir et à pas... convaincre ou même pas vouloir forcément aider, juste accueillir. Et ça aussi, ça a été intéressant pour moi de découvrir ça maintenant il y a quelques années, cette notion de se greffer la fonction parentale et de aussi se la donner à soi-même, finalement. Je peux me materner. J'aime pas dire me materner parce que c'est à nouveau très injonction.
Tu peux te Julie Arculiniser.
Ouais. Je peux m'apporter aussi à moi-même ce qu'on nous a dit qu'il fallait attendre d'une maman. Ça devient tordu. Hein, mais...
Tu peux t'apporter la sécurité émotionnelle.
Voilà. Et si j'y arrive pas, je peux aller demander de l'aide, mais c'est pas obligatoire que ça vienne de ma mère ou de mon père.
Ouais, c'est vrai qu'on nous promet l'amour inconditionnel, c'est-à-dire on va être aimé sans condition. Et c'est vrai que là, on se retrouve face à des parents qui nous aiment sous condition qu'on corresponde à leurs attentes. Et après, derrière, les dégâts dans nos vies sont...
Oui.
On va parler des conséquences d'avoir des parents toxiques dans une vie créative. Mais d'abord, moi, je voulais dire, c'est vrai que moi, pendant très très longtemps, tout ce que je viens de te dire, j'en parlais pas parce que pendant longtemps, c'était tabou déjà. Le nombre de gens qui m'ont insulté suite à ma vidéo en me disant « mais c'est que dalle, mais c'est ta faute », etc. Avant, je n'osais pas parler de toutes ces petites humiliations Parce que je me disais, bon, c'est des parents, c'est comme ça, tu vois. Alors qu'en fait, bon, moi, c'était tout le temps, c'était systématique. Les cris, les critiques, les humiliations. Pour te dire, chez moi, chez ma mère, on m'appelait même pas Christine, on m'appelait Marie-Chantal pour m'humilier. C'est te dire d'où je viens. Et parce qu'on partait du principe que j'étais un peu précieuse. Donc on se foutait toujours de ma gueule en m'appelant Marie-Chantal. Bon, bref. Ce qui est vraiment, à l'école, ça serait considéré comme du harcèlement, tu vois. Bref, et j'ai jamais parlé de ça. Et en fait, quand j'ai fait mon coming out d'agression sexuelle, j'étais bien contente parce que je me suis dit, là, on pourra pas m'enlever que mes parents sont toxiques. Parce que, bon, les gens connaissent mon histoire maintenant, mais j'ai été agressée sexuellement par un membre de ma famille. Et tout le monde a fait comme si de rien n'était. Mon père le premier, en continuant à fréquenter mon agresseur, qui était même pas de sa famille, d'ailleurs. Et en fait... cette anecdote, elle m'a rendu service. C'est pas une anecdote, d'ailleurs, c'est le drame de ma vie, mais bon. Ça m'a, entre guillemets, rendu service parce que là, c'était inattaquable. Parce que, ah, enfin, un truc grave. Ah, bah maintenant, on comprend pourquoi t'as coupé les ponts avec ton père. Il fréquente toujours ton agresseur sexuel. Mais en vérité, bien avant ça, même s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais été tout à fait légitime de couper les ponts avec mon père, même s'il n'y avait pas eu d'agression sexuelle, juste parce que mon père me faisait aller mal, même sans ça, on est d'accord.
Oui. Oui. J'ai pas grand chose à ajouter.
En fait, on peut couper les ponts. Ce que je veux dire, c'est qu'on a droit, c'est légitime de couper les ponts avec ses parents, juste entre guillemets, parce qu'on a subi la double contrainte, ou qu'on subit une emprise, ou parce que juste quand on rentre des vacances de Noël, on a envie de mourir, en fait. On ne peut pas forcément mettre des mots, il n'y a pas d'histoire concrète comme la mienne, en l'occurrence, où on a protégé mon agresseur, mais. Il y a quand même un truc un peu dans l'air qui est malaisant, malsain et qu'il faut fuir, qui est toxique.
Je crois que c'est plus qu'un truc dans l'air. Je pense que c'est très objectivable, la toxicité, maintenant.
Maintenant ?
Ouais.
Ouais.
Peut-être... En effet, quand mon livre « Survivre aux parents toxiques » est sorti, il n'y en avait pas encore tellement à ce moment-là. Il y avait Suzanne Forward qui avait été traduite de l'anglais, mais il n'y avait pas beaucoup de bouquins. Il y avait Isabelle Nazaraga avec « Les parents manipulateurs ». Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a quand même avancé là-dessus, en tout cas, c'est que la toxicité est objectivable. Et que tout le travail qu'ont fait les professionnels du bien-être, de la santé, qui ont écrit, qui ont podcasté, étudié, peuvent aujourd'hui donner des critères très objectivables. Donc, ce qui avant peut-être était une ambiance impalpable, aujourd'hui, c'est très objectivable. Moi, je passe mon temps en consulte à dire « Ok, alors on va prendre la liste ». Puis moi, en plus, je suis... Alors, ça ne se voit pas dans un podcast, mais je suis quand même très expressive. Donc, hier, j'étais face à quelqu'un qui me racontait des trucs. Moi, je me décomposais. Elle me disait « Ah, votre non-verbal est fort. » Ah, ben oui, mais... oui, mais ce que tu me racontes est horrible. Donc, je ne peux pas rester complètement neutre. Bon. Donc, aujourd'hui, tu vois... Alors, bien sûr, une agression sexuelle, c'est très objectivable. Mais la double contrainte, la menace, la culpabilisation, le chantage, le chaud, le froid, le lâcher de bombe, tout ça est très objectivable aussi. Donc je pense qu'il faut petit à petit qu'on sorte de ce truc un peu...
Oh mais c'est tes parents, ça va.
Oui, oui mais bon...
Ouais, ça non, va, en fait, le fameux ça va.
Voilà, c'est aujourd'hui hyper objectivable et il faut le faire. Il faut revenir aux faits, toujours les faits, parce que comme les personnes toxiques, certainement les manipulateurs, s'arrangent pour que tout soit toujours flou. Tu vois, on va parler, ouais, par exemple, dans le climat incestuel ou incestueux, il y a le passage à l'acte, mais il n'y a pas toujours le passage à l'acte, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas dans un climat d'inceste. Le fait qu'on ne respecte pas l'intimité, le fait qu'on fasse des blagues... ça m'énerve de dire blague d'ailleurs, surtout en face d'une humoriste, mais... des remarques, des critiques sous le couvert de l'humour, sur l'intimité, sur le corps, etc. Le fait qu'on se balade à poil, alors à nouveau, je crois qu'il ne faut pas faire un tabou de la nudité non plus, mais je pense qu'il faut que tout le monde soit d'accord en fait. Enfin, est-ce qu'un enfant de 5 ans peut être d'accord ou pas pour que ses parents se baladent à poil ? Bon, c'est un autre sujet, mais y a un truc comme ça qui n'est pas clair dans les limites de l'intimité et qui est un un climat d'inceste, quoi, où il n'y a pas forcément de passage à l'acte physique, mais il y a quand même une barrière qui est franchie. Tout ça aussi, c'est objectivable aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de passage à l'acte qu'on n'est pas dans quelque chose de toxique, qui abîme, qui détruit. Et en plus, on a quand même avancé dans les lois aussi. Alors, même si la mise en pratique des lois et l'impunité restent pareilles, bon, en tout cas, dans les textes, il y a des choses très claires sur les violences psychologiques. Alors, bon, pas encore si clair que ça. Mais enfin, on avance, on évolue, le harcèlement, tout ça. C'est en route. Donc, je pense que ça, c'est un message important à faire passer. C'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas un drame physique comme toi, tu as vécu. Qu'il n'y a pas quelque chose de tout aussi toxique.
Ouais, tu l'as dit, un bon test aussi, et c'est aussi pour ça que moi j'ai pu faire le travail, c'est la réaction des autres quand tu leur racontes. Et moi, c'est vrai que j'ai commencé à raconter mon histoire à la petite trentaine, sous couvert de l'humour, et je voyais les gens se décomposer face à moi. Et en fait, tu dis, ah oui, donc en fait, c'est grave. Parce que moi, je partais du principe que c'était chez tout le monde pareil, tu vois. Et en fait, non. Et ça aussi, c'est un bon test. Et ça aussi, on peut l'objectiver dans l'œil de l'autre, en fait.
Oui. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas partisane de la neutralité absolue quand on consulte, on me raconte des choses. Parce qu'en fait, c'est thérapeutique déjà, cette réaction. C'est thérapeutique de voir quelqu'un, comme tu dis, qui se décompose, qui n'en revient pas de ce qu'elle entend. Et surtout, et ça je le faisais pas il y a quelques années, mais je le fais de plus en plus, c'est dire ce que je ressens. Et hier, face à cette dame qui me disait « Ouh là là, votre non-verbal, il est très clair. » Je dis « Mais là, vous avez mon non-verbal, mais en fait, ce que je ressens, c'est mon estomac qui se serre parce que je suis touchée par l'atrocité de ce que vous vivez. Et c'est extrêmement violent. » Et elle m'a regardée un peu comme deux ronds de flanc. Ah oui, à ce point-là, mais sans blague, quoi. Donc, ça fait partie des petits signaux comme ça qu'on peut envoyer aux gens quand ils nous racontent des choses difficiles. Mais bon, c'est pas toujours accueilli de cette façon-là. Hein.
Bah, la première grosse difficulté quand on a vécu des traumas, et c'est un des fils rouges de mes livres, c'est valider la gravité. C'est-à-dire, c'est très dur de valider la gravité de ce qu'on a vécu parce que ça remet en question tellement de choses. Ça remet en question qu'on va peut-être couper les ponts avec ses parents. Ça remet en question que, en fait, j'ai pas su poser des limites, donc on culpabilise. Ça remet en question que, du coup, on a reproduit les mêmes comportements. Donc nous aussi on est fautifs. Moi je sais que souvent par facilité, comme j'avais vu ma mère faire avec des ex-petites amies, j'ai eu 8 ans d'âge mental aussi parce que ma mère m'avait montré qu'on avait le droit de faire ça pour s'en sortir des situations délicates. Donc moi pendant très très longtemps avec mes petites amies, j'avais 8 ans et ça me rendait service, mais tu te rends pas compte le chaos que tu mets dans la vie de la personne. Donc ça va valider la gravité pour soi, c'est déjà commencer un parcours de guérison. Et surtout, c'est aussi de plus voir la situation de la même façon, de prendre la responsabilité de ce qu'on a vécu et aussi donner la responsabilité de la gravité de leurs actes aux bourreaux.
Oui. Oui, mais les bourreaux ne prennent jamais la responsabilité de la gravité.
Non, c'est pour ça qu'il faut leur donner, il faut leur donner d'office, en fait.
Voilà,
exactement. C'est à nous de décider, en fait. C'est-à-dire que oui. Mes parents, bien sûr, racontent leur version de l'histoire à tout le monde. Je m'en fiche, puisque qui même me suivent, et si vous décidez de les croire, très bien, fréquentez-les, c'est parfait. Et je sais très bien qu'ils n'entendront jamais ce que moi j'ai à dire. C'est aussi moi aussi, ce que j'essaye de faire, c'est que moi, je suis partie, je peux me regarder dans la glace en disant que j'ai essayé d'expliquer à mon père et j'ai essayé d'expliquer à ma mère. C'est-à-dire qu'on me dit souvent, mais t'as coupé les ponts quand même, c'est ton père, c'est ta mère. Oui, mais j'ai vraiment tout fait pour essayer de les amener sur le terrain de l'humanité, de l'intelligence émotionnelle, factuellement, leur expliquer factuellement pourquoi on en était là. Et je n'ai pas eu de réponse humaine. J'ai eu des réponses animales. Et encore, j'adore les animaux, c'est méchant pour eux, mais j'ai eu des réponses de survie, de victimisation, d'excuses, de cris, de chantage. Mon père m'a menacé de me faire un procès, enfin voilà. Donc déjà, il y a ça. Et surtout, tu parlais de prendre de la distance. Je pense que le parent qui aime son enfant, il ne va pas laisser cette distance s'installer trop longtemps. Il va essayer quand même de... Moi, on me dit souvent, c'était d'ailleurs dans les commentaires que j'ai reçus sous la vidéo, et si ta fille... elle faisait cette vidéo-là, et si ta fille, elle prenait des... Moi, si ma fille me dit t'es toxique et tout, par tous les moyens, j'essaierai de comprendre pourquoi elle en est arrivée à cette conclusion. Et si ma fille prend des distances avec moi, par tous les moyens, j'essaye de la rattraper, quoi. Mais je pense que je vais toquer à sa porte, à genoux, je t'en supplie, quoi que j'ai fait, pardonne-moi, parce que je n'imagine pas une vie sans mon enfant. Donc on est d'accord que le parent toxique s'en fout, parce que moi, personne ne m'a couru après. En l'occurrence. Que c'est bon d'en rire. 15 ans de psychanalyse, mesdames et messieurs, pour avoir ce rire.
Il faut en rire. Enfin, il faut... Non, il ne faut oui. rien. Il faut rien. Mais c'est un bon signe. Quand on arrive ouais. à en rire, et moi je pratique beaucoup ça aussi en consulte, de toute façon sinon moi je me tire une balle, c'est
ouais,
clair,
tu m'étonnes,
donc
ouais.
rien que pour moi déjà, puis pas avec tout le monde, pas à tous les moments, pas dans tous les contextes, mais l'humour et le fait de pouvoir en rire, ça marque quand même une sacrée prise de recul et une emprise qui est plus trop là quoi. Donc pour répondre à ta question, est-ce que le parent toxique s'en fout ? Alors le parent toxique, oui, il s'en fout en soi de toi, mais ne s'en fout pas de l'image qu'il renvoie. Donc, il peut te courir après. Après, ils ont leur propre façon de courir après les gens, hein, en les culpabilisant, en les menaçant, etc., en faisant du chantage. Il peut te courir après pour pouvoir dire aux gens « Mais regardez, j'ai fait tout ce que j'ai pu. » Moi, en consulte, parfois, les gens me transfèrent des mails de leurs parents, tu vois, ou de leurs conjoints, enfin, peu importe. Mais ici, on parle de parents toxiques, donc parfois, en consulte, on m'envoie des mails. Moi, je me marre, quoi. Je me marre parce que c'est pas moi qui suis dedans. À l'époque, je me marrais pas, hein, franchement, quand je recevais des mails de mon parent toxique, assez vite ça m'a fait marrer, mais bon, pas toujours quand même, ou pas tout de suite, et tout y est quoi, ouais. le chantage, la culpabilisation,
oui, parce que tu vois... ils reviennent, mais avec, c'est ça que je voulais dire, parce que et moi oui. on est d'accord que ce que j'attends, j'ai toujours peur de dire ça publiquement, parce que du coup j'ai peur qu'ils reviennent en faisant des trucs faux exprès pour me réamadouer, mais moi ce que j'attends c'est des excuses véritables et un, comment dirais-je,
oui,
une prise de, c'est ça que j'attends de leur part,
ça n'arrive pas,
voilà. Mais par contre j'ai beaucoup de messages de je vais bientôt mourir, ce qu'il faut, ou tiens donne-moi ton RIB, je vais te virer 20 000 euros, c'est ça que je reçois, moi, 17 000 en l'occurrence, mais moi c'est ça que je reçois, tu vois, ça n'a aucune valeur, c'est pas ça que j'appelle
non,
tu vois, ouais, ouais.
Non, en effet. Et ouais, c'est vraiment les excuses. Moi, c'est ce que je dis souvent, hein, quand on me dit « oui, mais il me promet ou elle me promet qu'il ou elle va changer », je suis là « fine ».
J'ai même pas eu les promesses, hein. Non, c'est déjà bien, hein.
Oui, c'est vrai. C'est déjà très bien. Ça t'a fait gagner du temps. Donc, je leur dis « ok, très bien, alors vous allez prendre une feuille de papier blanche et vous allez mettre sur cette feuille les actions concrètes qui vont être menées pour que le changement ait réellement lieu ». Et la feuille reste blanche, évidemment, parce que qu'est-ce qu'il faut faire quand on se rend compte qu'on a un comportement toxique ? Le bon réflexe, c'est d'aller consulter. Alors, tu consultes. Je m'en fous du type de métier que tu vas consulter, l'énergéticienne, la psy, la psychiatre, la coach, la thérapeute, le MDR, l'hypnose, l'EFT, la sophrologie, enfin peu importe, je
le
m'en
vaudou.
Fous, tout c'est bien, il faut trouver ce qui te convient, mais tu vas consulter pour nettoyer ça. Si tu le fais pas, ben, ça va pas aller tout seul en fait. Donc oui, quand ils promettent qu'ils vont changer ou qu'ils disent qu'ils ont compris, Il faut questionner, quoi. On dit, mais qu'est-ce que t'as fait exactement pour changer ? Ça a été quoi le processus ? Qu'est-ce que t'as compris ? Et très vite, et parfois j'ai des personnes toxiques en consulte. C'est vraiment, j'adore. Au début, j'aimais pas. Ça me faisait peur et tout. Et puis un jour, je me dis, non, mais en fait, je vais m'amuser la prochaine fois. Et donc, quand tu les ramènes à leur responsabilité, tout de suite ça repart vers quelqu'un d'autre, quoi. Mais quelle est votre part de responsabilité dans cette situation ? Mais non, mais vous savez, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je suis victime d'une machination. Non, mais vraiment, je crois que c'est pas moi le problème. Alors que les victimes des personnes toxiques, des parents toxiques, elles arrivent en disant c'est moi le problème, en fait. Et donc parfois, on me dit, oui, mais toi, tu crois toutes celles qui viennent te voir ? Mais évidemment, je les crois. Elles ne vont pas venir me payer pour me raconter des cracks. Ça n'a aucun intérêt. Je ne suis personne. me payer pour me raconter des mensonges, ça va pas du tout faire avancer le schmilblick de leur vie. Je vais rien en faire, moi, de ces mensonges. Donc, bien sûr, je les crois, mais je différencie la personne toxique qui vient pour pouvoir dire « Mais regarde, j'ai été voir Julie Arcoulin, c'est la spécialiste, elle a dit que... » Non, mais parce que j'en ai eu, bien
ouais,
sûr.
Bien sûr.
Comment je fais la différence, c'est que la vraie victime... Enfin, la vraie victime dans le sens pas la personne toxique, hein, parce que toutes les victimes sont des vraies victimes, s'installe en disant « Je crois que c'est moi le problème. » Et la personne toxique s'installe en disant « Je suis la victime d'une personne toxique. » Alors, je caricature
oui.
un peu.
Après, je suis l'exception qui confirme la règle, parce que moi, quand je suis allée consulter en disant que j'étais toxique, à l'époque, c'était pas une psychiatre, c'est une psychanalyste, elle a tout fait pour me faire changer d'avis. Alors que manque de bol, j'étais vraiment une personne toxique, moi. Donc, quelquefois, il y a quand même...
Oui. Mais alors, t'avais probablement des comportements toxiques, mais t'étais pas toxique dans ton identité, tu
c'est
vois.
C'est gentil de me dire ça.
Non, mais... bon, après, je ne veux pas m'avancer, mais... Non, je rigole. Il y a vraiment le... C'est ça aussi la différence, parce qu'une relation peut être toxique sans qu'il y ait l'une ou l'autre des personnes qui soient toxiques. Mmh. Ça peut être la rencontre de blessures incompatibles. Tu vois, si en tant que nana, t'as besoin que ton mec soit hyper attentif à toi et que ton mec, ben, il a dû être trop attentif à sa mère qui pouvait pas, qui était une enfant de 8 ans et qui pouvait pas se prendre en charge... Ça va, il y a un moment où les blessures, ça va pas aller, quoi. Si l'un et l'autre font pas un petit boulot pour prendre leurs blessures en charge et les guérir, ça va devenir l'enfer, la relation. Donc, mais aucune des deux personnes n'est forcément toxique. Ça arrive aussi. Mais il y a des blessures, des mécanismes qu'on a mis en place qui peuvent en effet nous rendre toxiques pendant un temps. Mais à nouveau, qu'est-ce qui différencie une personne toxique d'une personne pas toxique, même si elle a des comportements toxiques, c'est la remise en question. Donc, la vraie personne toxique ne va pas dire « je suis la personne toxique ». Donc, peut-être c'est en ça que cette psychanalyste a voulu te faire changer d'avis,
peut-être,
parce que t'avais
oui.
ta capacité de remise en question que n'a pas une vraie personne vraiment toxique.
Mais après, souvent je me dis, tu vois, moi j'ai voulu changer parce que je perdais les gens que j'aimais. J'étais malheureuse, je passais à côté de beaucoup d'opportunités professionnelles parce que j'étais devenue une connasse. Et des fois, je me dis, mais si ça se trouve, si tout avait super bien marché pour moi, je ne serais jamais remise en question. Et là, je serais une immense perverse, riche et célèbre. Bon, on ne sait pas. En tous les cas, non, mais comme quoi c'est important de se prendre oui. des claques dans la vie. Merci d'avoir écouté cette première partie jusqu'au bout. La deuxième suivra bientôt et dans celle-ci, Julie Arcoulin et moi-même, nous vous donnerons des clés pour survivre et se réparer des parents toxiques. À très vite et d'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut.